Lizzie présente Vengeance en Prada de Lorraine Weisberger, lue par Caroline Victoria. Pour R et S, avec tout mon amour. Chapitre 1. Aussi longtemps qu'elle vivrait. La pluie, glaciale, se déversait en rideaux obliques que les rafales de vent désordonnées dispersaient dans toutes les directions, rendant parapluies, cirés et bottes en caoutchouc presque inutiles. Non qu'Andy eut quoi que ce soit de tout cela. Son parapluie Burberry à $200 avait d'abord refusé de s'ouvrir pour finalement se casser avec un bruit sec lorsqu'elle avait essayé de lui faire entendre raison. Sa veste courte en lapin, avec un col oversize mais sans capuche, lui corsetait superbement la taille à défaut de lui offrir une quelconque protection contre le froid pénétrant. Et ses escarpins Prada en daim flambant neuf, rouge coquelicot, étaient un baume pour le moral qui laissait, hélas, la majeure partie des pieds nus. Même son legging lui donnait l'impression d'être jambes nues, sous les assauts de cette bise qui rendait le cuir aussi protecteur qu'une paire de bas de soie. Le manteau blanc d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur qui recouvrait New York commençait déjà à fondre, laissant place à une répugnante boue grisâtre, et pour la énième fois, Andy regretta de ne pas vivre ailleurs. Comme pour confirmer cette pensée, un taxi grilla le feu orange en klaxonnant avec fureur après Andy, qui avait commis le crime impardonnable de tenter de traverser la rue. Se retenant de lui faire un doigt d'honneur, s'étant si le New-Yorkais était prompt à dégainer les armes, elle se contenta de serrer les dents et de bombarder mentalement d'injures le malotru. Compte tenu de la hauteur de ses talons, elle effectua ensuite une honorable progression sur deux ou trois blocs. 52e rue, 53e, 54e. Le restaurant n'était plus très loin maintenant, et au moins pourrait-elle se réchauffer brièvement avant de regagner le bureau ventre à terre. Elle se réconfortait avec la promesse d'un café chaud, et peut-être à la rigueur, d'un cookie aux éclats de chocolat, quand soudain retentit cette sonnerie. D'où pouvait-elle provenir ? Andy regarda autour d'elle, mais les autres piétons ne semblaient pas la remarquer, alors qu'elle gagnait en puissance. Dring ! Dring ! Cette sonnerie, Andy l'aurait reconnue entre mille. Elle la reconnaîtrait aussi longtemps qu'elle vivrait. Mais elle s'étonnait qu'il se fabrique encore des téléphones qui l'aient en mémoire. Elle ne l'avait plus entendue depuis une éternité, et pourtant, c'était bien elle, insistante. Avant même de sortir le téléphone de son sac, Andy savait à quoi s'attendre. Mais le choc qu'elle éprouva en voyant le nom affiché sur l'écran n'en fut nullement atténué. Miranda Priestly. Elle n'allait pas répondre. C'était impossible. Elle inspira un grand coup, refusa l'appel et glissa le téléphone dans son sac. Il recommença à sonner presque aussitôt. Andy sentit que son cœur accélérait, que ses poumons avaient de plus en plus de mal à s'emplir d'oxygène. Inspire, expire, s'ordonna-t-elle en rentrant le menton dans les épaules pour se protéger le visage de cette neige liquide qui tombait maintenant à seaux, et continue à marcher. Le restaurant n'était plus qu'à deux blocs, et Andy distinguait déjà sa devanture illuminée, tel un mirage de terre promise, un havre de tiédeur, lorsqu'une bourrasque particulièrement agressive la déstabilisa. Pour recouvrer l'équilibre, elle n'eut d'autre choix que de poser un pied au beau milieu de ce que les hivers new-yorkais réservent de pire. Une flaque noirâtre, un infâme brouet de neige fondue, de sel, d'ordure, et Dieu seul sait quoi d'autre encore. C'était répugnant, glacial et si profond qu'il n'y avait rien à faire sinon capituler. Ce qu'elle fit, donc. Elle s'immobilisa dans ce ramassis d'immondices entre la chaussée et le trottoir, prenant gracieusement appui sur son pied immergé et restant perché, tel un flamant rose, pendant 30, 40 secondes, le temps de passer en revue ses options. Les piétons décrivaient un large détour pour les contourner, elle et le cloaque, et seuls ceux équipés de bottes en caoutchouc jusqu'aux genoux se risquaient à couper directement au travers. Mais aucun ne lui tendit une main secourable. Et lorsqu'elle s'aperçut que le périmètre de la flaque était bien trop vaste pour lui offrir une échappatoire dans l'une ou l'autre direction, elle se prépara à affronter un nouveau choc thermique et posa le pied gauche à côté du droit. L'eau glacée lui mordit aussitôt le bas du mollet, avalant d'un coup escarpin rouge et 10 bons centimètres du legging en cuir, et Andy se retint de pleurer du mieux qu'elle put. Chaussures et leggings étaient bons pour la poubelle. Ses pieds, gelés, pour l'amputation. Mais pour s'extirper de ce désastre, elle n'avait d'autre choix que de traverser cette flaque. « Tu as filtré Miranda Priestly, et voilà le résultat », songea-t-elle. Elle n'eut guère le loisir de s'apesantir sur son infortune, car sitôt qu'elle fut parvenue sur le trottoir d'en face, alors qu'elle découvrait l'étendue des dégâts, son téléphone se remit à sonner. Elle avait fait preuve d'un sacré culot, ou plutôt non, d'une totale inconscience, en ignorant le premier appel. Elle ne pouvait pas faire la sourde oreille une nouvelle fois. Ruisselante, grelottante, au bord des larmes, Andy appuya sur l'écran et dit « Allô ? Andrea ? C'est vous ? Vous êtes parti depuis une éternité. Je ne répéterai pas ma question. Où est mon déjeuner ? C'est inadmissible de me faire attendre ainsi. » Évidemment que c'est moi, pensa Andy. Tu as composé mon numéro. Qui d'autre pourrait répondre ? Je suis terriblement désolée, Miranda. Dehors, c'est un cauchemar et je fais de mon mieux pour... Je vous attends. Sans délai. C'est tout. Et la communication s'interrompit, sans laisser à Andy la possibilité d'ajouter quoi que ce soit. L'eau glacée emprisonnée dans ses chaussures produisait des bruits de succion répugnants. Ses talons hauts rendaient tout déplacement périlleux, même par temps sec. Les trottoirs se transformaient en patinoires à cause de la pluie qui commençait à geler. Rien de tout cela n'importait. Andy se mit à courir, du plus vite qu'elle le put. Elle n'était plus qu'à 100 mètres du restaurant lorsqu'elle entendit qu'on l'appelait. « Andy, Andy, arrête-toi ! C'est moi ! Arrête de courir !» Ça ne faisait aucun doute. C'était Max. Mais que faisait-il là ? Il ne devait pas passer le week-end à la campagne, quelque part au nord de l'État, pour une raison qui, là, tout de suite, lui échappait. Andy s'immobilisa, se retourna, chercha à l'apercevoir. « Andy, ici !» Elle repéra enfin le bel homme brun, robuste, au regard vert perçant, juché sur un immense cheval blanc, son fiancé. Andy se méfiait des chevaux depuis cette chute de poney en CE1, qui s'était soldée par une fracture du poignet. Mais cet animal-là semblait doux. Et l'apparition de Max la plongeait dans une telle extase qu'elle ne s'étonna même pas de le voir se déplacer à cheval en plein centre de Manhattan, tandis qu'une tempête de neige faisait rage. Max mit pied à terre avec l'aisance du cavalier confirmé, et Andy essaya de se souvenir s'il lui avait dit avoir joué au polo par le passé. En 3 longues enjambées, il fut à ses côtés et l'enlaça. Elle s'abandonna à cette étreinte délicieusement tiède et sentit tout son corps se détendre. « Mon pauvre bébé », murmura-t-il sans se soucier du cheval ni des passants qui les dévisageaient. « Mais tu dois être morte de froid. »